Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindani.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Découverte d'une importante cargaison d'armes et munitions par les FARDC à Noro dans la province de l'Ituri. Selon plusieurs sources locales, ces effets de guerre appartiennent à la milice de la Convention pour la Révolution Populaire, CRPE de Thomas Lubanga. Concernant l'éboulement survenu mardi 3 mars dans la mine de Roubaïa, au Nord Kivu, l'heure est à la recherche des corps et les proches des victimes, eux, attendent de pouvoir enterrer dignement les leurs. Constitution de la RDC promulguée depuis 20 ans continue de diviser les acteurs de la classe politique congolaise. Si les uns membres de l'Union sacrée de la nation optent pour une révision ou son changement, les autres membres de l'opposition sont contre cette démarche. Cette question a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Jean-Marc Matouaki qui a animé cette émission. D'abord cette nouvelle, la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo a un nouveau patron. Il s'agit de James Swan. Il est donc nommé comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la MONUSCO. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé hier jeudi cette nomination de l'Américain James Swan au poste de représentant spécial de la MONUSCO comme je l'ai dit. Il succède à Bintou Keïta de Guinée, en qui l'ONU exprime sa reconnaissance pour les services rendus à la mission. Diplomate chevronné, James Swan était depuis mars 2025 représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie et chef de la mission d'assistance transitoire des Nations Unies en Somalie. Avant de rejoindre les Nations Unies, James Swan a effectué une carrière de 32 ans au sein du gouvernement américain, occupant plusieurs postes liés à la RDC, notamment ambassadeur de 2013 à 2016, chef des missions adjoint 2021 à 2024 et responsable de bureau de 1996 à 1998. Bienvenue à lui. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous parlons d'abord sécurité avec cette découverte d'armes en Ituri. L'armée affirme en effet avoir découvert mercredi dernier une importante cargaison d'armes et munitions au village de Noro situé à environ 45 km au nord de Bunia dans les territoires de Djougou. Des armes attribuées à la CRPE, c'était au cours d'une opération de nettoyage de la zone avec comme objectif de réduire la capacité des nuisances de cette rébellion. Selon plusieurs sources locales, ces effets de guerre appartiendraient à la milice de la Convention pour la Révolution Populaire CRPE de Thomas Lubanga. Ils étaient cachés dans un faux site d'or. Martial Kizabiamongo.
Il s'agit de plusieurs centaines de caisses de munitions, d'armes de type AK-47, de PKM, mais aussi des armes de pointe et plusieurs autres effets de guerre. Ce jeudi, vidéo à l'appui, les porte-parole de FARDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a affirmé que c'était au cours d'une opération ciblée menée par les forces loyalistes pour réduire la capacité logistique des nuisances du groupe armé CRP de Thomas Lubanga. La société civile locale salue la collaboration de la population avec les forces armées. Elle encourage les FARDC à aller jusqu'au bout afin d'anéantir la menace de la CRP et de permettre ainsi le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Notons qu'il y a deux semaines, les FARDC avaient présenté à la presse locale plusieurs centaines d'armes et munitions récupérées au cours d'opérations militaires contre le même groupe armé dans les territoires d'Ndjougou, mais aussi contre les ADF dans les territoires d'Iromo et de Mambasa, Bunia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Crise humanitaire en République démocratique du Congo. Sachez que Kinshasa sollicite environ 1,4 milliard de dollars américains auprès des partenaires. C'est la ministre des Affaires sociales qui a lancé cet appel mercredi à Kinshasa. Objectif, répondre aux besoins humanitaires urgents en 2026. Eve Bazaïva annonce cette estimation en envisageant aussi les retours des réfugiés congolais qui sont au Burundi. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon la ministre, cette enveloppe est nécessaire pour assurer l'aide alimentaire, la santé, l'éducation et la protection des populations vulnérables dans un contexte de tensions et de déplacements internes. La crise humanitaire est aggravée par l'instabilité sécuritaire dans plusieurs provinces, notamment au sud Kivu, où la situation à Uvira commence à s'améliorer, ouvrant la possibilité d'un retour volontaire des réfugiés. Actuellement, environ 250 000 Congolais se trouvent dans sept sites d'accueil au Burundi. Une réunion tripartite se tiendra prochainement entre le gouvernement congolais, les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités burundaises afin d'organiser ces processus dont l'objectif est de préparer un retour sécurisé et coordonné tout en continuant à répondre aux besoins immédiats des populations déplacées.
Suite de l'éboulement survenu mardi 3 mars dans la mine de Rubaya au Nord Kivu, l'heure est à la recherche des corps et l'opération se poursuit sur ces sites miniers situés à environ 70 km à l'ouest de Goma dans les territoires de Masisi. Si plus personne n'espère retrouver des survivants dans ces drames qui a coûté la vie à plus de 200 personnes, les proches des victimes, eux, attendent de pouvoir enterrer dignement les leurs. Sur place, les autorités ont ordonné l'arrêt momentané de toute extraction minière. Le point sur la situation avec Ella Chembalo.
À Rubaya Centre, la vie reste marquée par l'éboulement de mardi. Un habitant contacté sur place jeudi soir raconte que, de son lieu de travail, il a vu passer tout au long de la journée plus de 10 corps en provenance d'ici des Kasasa, certains attachés sur des motos. Dans leurs échanges, les habitants risquent des dangers de travailler sur des sites miniers. Pour eux, travailler dans les galeries souterraines, c'est risquer toute sa vie au quotidien. Mais l'éboulement de mardi, qui a aussi coûté la vie aux petits commerçants sur les sites, étend les rayons du risque. Pour l'instant, les autorités ont suspendu les travaux d'extraction minière sur les sites des Kasasa, indiquent des sources sur place. Une bonne décision, selon un acteur local, mais il craint que cela ne dure pas, car selon lui, même si le terrain est dangereux et marécagé sur ces sites, Kasasa est parmi les sites très actifs de Rubaya. Jusqu'à présent, il est difficile d'avoir un bilan de ces drames, même si les premières estimations faisaient état de plus de 200 morts.
Entre-temps, des réactions sur cet accident continuent de nous parvenir. La dernière est celle du ministre des Mines, Louis Wantoum Kabamba, dit avoir appris avec consternation cette tragédie de Rubaya au Nord Kivu et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il regrette en même temps que les règles élémentaires de sécurité aient été négligées dans cette mine qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Le ministre souhaite enfin le rétablissement rapide de la paix dans la région afin que le gouvernement puisse gérer ces sites miniers avec responsabilité. On écoute Louis Wantoum Kabamba dans cet extrait proposé par Alain Irung Mouchinj.
Je suis pour la tristesse de présenter mes condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées à la suite de l'éboulement qui vient encore de se passer, où nous comptons environ 200 morts. Nous devons arrêter cette comptabilité macabre. La raison donnée, c'est qu'il y a eu des pluies abondantes qui ont causé des glissements de terrain. J'aimerais dire une chose, j'ai 35 ans d'expérience dans les mines, en toute modestie, en toute humilité. Une mine ne s'écroule pas parce qu'il a plu abondamment. Une mine s'écroule lorsqu'elle a été mal gérée, lorsqu'il y a eu un mépris des règles élémentaires de sécurité. C'est quand la mine s'écroule. Nous avons fait du mining dans des conditions extrêmes de pluviométrie et on n'a jamais vu des éboulements comme ça. Et d'ailleurs, au dernier trimestre de l'année passée, j'avais même pris un arrêté pour déclarer cette zone-là une zone rouge. On ne peut pas faire du mining dans cette mine-là parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et donc nous déplorons cet état de choses. Nous déplorons tous ces morts dans cette comptabilité macabre, tout en présentant les condoléances aux familles éprouvées. Et nous formulons de tous nos voeux le retour de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays pour que nous reprenions contrôle de ces mines et nous puissions les gérer avec la responsabilité.
La Chambre de commerce Royaume-Uni, République démocratique du Congo, désormais une réalité depuis hier jeudi à Kinshasa. Le ministre du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongya, a lancé cette activité qui s'est tenue en présence du corps diplomatique ainsi que des représentants des secteurs publics et privés. Selon le ministre du commerce extérieur, cette Chambre de commerce jouera un rôle majeur dans la consolidation du partenariat commercial lancé en novembre dernier entre les deux États, un partenariat qui permet à 99,8% des produits made in DRC, notamment les cacao, le café et les épices, d'accéder au marché britannique sans paiement des droits de douane. Écoutons Julien Paluku Kaongia dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Cette chambre de commerce est une occasion qui va permettre la RDC, le Royaume-Uni, d'avoir une communication permanente à partir d'aujourd'hui. Et donc, je considère que pour que cette communication redevienne permanente, il y a des demandes à faire. La première demande, c'est de dire la RDC voudrait qu'il y ait une ligne directe de British Airlines entre Kinshasa et Londres directement. Ça sera la bonne manière de traduire ce partenariat ici. Et c'est la volonté du président de la République qui veut développer un partenariat solide avec la Grande-Bretagne. Parce que vous avez des expériences dans tous les secteurs et nous sommes un pays qui sort des conflits petit à petit et qui a besoin d'un accompagnement. La deuxième demande, après British Airlines à Kinshasa, c'est la présence massive des entreprises britanniques en République démocratique du Congo pour nous aider à transformer l'écosystème économique de notre pays, transformer nos matières ici et nous permettre de les exporter avec une valeur ajoutée. Ça sera une bonne participation du Royaume-Uni à l'essor économique et à la vision que le président a tracée, celle de faire de la RDC, en fait, la locomotive du développement de l'Afrique.
Parlons santé à présent. Kinshasa s'en va en guerre contre le choléra car cette maladie vient de franchir un cap décisif avec une hausse de cas, soit 2190 cas, dont 68 décès depuis le début de cette année. Face donc à cette situation, les autorités sanitaires, avec l'appui d'Organisation mondiale de la santé, déploient une stratégie d'urgence, c'est-à-dire quadriller systématiquement les zones les plus touchées dans la capitale en vue de briser les chaînes de transmission. Plus concrètement, les communes de Ngaliema, la partie Binzaozon, Kalamu 2 et Limete, la partie Kingabwa, deviennent les centres d'une mobilisation intense jusqu'au 8 mars prochain. Il y aura distribution des kits wash, chloration de l'eau, désinfection des ménages et recherche active de cas. Nancy Atambo a assisté à la première phase des opérations dans la commune de Ngaliema. Suivons son reportage.
Binzaozon, les équipes se préparent pour le déploiement porte à porte. Microplan validé, superviseurs formés et kits distribués. La stratégie est lancée. Les relais communautaires évoquent leur engagement dans la prévention et les défis rencontrés.
Nous commençons par faire les visites à domicile et puis si nous découvrons des cas de choléra dans les ménages, nous essayons de les instruire.
Pour le ministère provincial de la Santé, cette opération vise des résultats rapides.
Il s'agit de donner le message clé à la population sur comment prévenir contre la maladie qu'on appelle le choléra.
Les autorités communales promettent une couverture de tout le ménage et préviennent contre toute résistance.
Des agents de la santé qui vont passer de ménage à ménage pour effectuer l'assainissement. Nous sommes garantis que tout se passera bien. Il y aura d'énormes sanctions à d'autres qui ont mal canalisé leurs installations sanitaires.
La coordinatrice adjointe de la riposte assure que les moyens sont disponibles et que les premiers indicateurs sont encourageants.
Oui, c'est pas seulement moyens matériels, nous avons des ressources humaines.
À Kinshasa, la bataille contre le choléra se joue désormais porte à porte avec un objectif, casser rapidement la transmission grâce à une mobilisation collective.
Le Nord Kivu en difficulté par manque de produits sanguins. La demande de ces produits augmente alors que les réserves diminuent. À Beni, par exemple, le centre de transfusion sanguine fait face depuis plusieurs semaines à une carence de sang. Et pour cause, la baisse du nombre des donneurs bénévoles. Conséquence, cette structure sanitaire peine à approvisionner les hôpitaux et centres de santé de la ville et du territoire de Beni. Les détails avec Martial Papimukeba.
Blessé par arme à feu ou arme blanche, patient souffrant d'anémie ainsi que rescapé d'attaques armées figurent parmi les malades qui nécessitent régulièrement des transfusions sanguines dans les hôpitaux et dispensaires de Beni. Cependant, depuis plusieurs semaines, les centres de transfusion sanguine de Beni qui dessert l'ensemble de la région peinent à satisfaire la demande en produits sanguins. Cette situation s'explique notamment par la baisse du nombre des donneurs bénévoles, une tendance qui complique l'approvisionnement d'approvisionnement des structures sanitaires de la région, indiquent les responsables du centre, le docteur Vianney Kambéré.
Le nombre de donneurs est encore insuffisant par rapport à la demande que nous avons. Nous comptons avoir au moins 1000 donneurs dans le mois, mais nous avons difficile à atteindre même 700 jusque-là. Lorsque les demandes arrivent, il n'y a pas toujours autant de donneurs pour pouvoir satisfaire à toutes ces demandes-là. Nous appelons encore à toute la communauté à pouvoir nous venir en aide, donner le sang et sauver les vies humaines.
Selon le docteur Vianney Kambéré, le manque de donneurs s'explique par une sensibilisation insuffisante de la communauté et un déficit d'informations sur les besoins cruciaux et la forte demande en produits sanguins dans la région. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le nord-est du Bénin est endeuillé. Mercredi 5 mars, la localité de Kofounou, nichée près de Karimama, à l'extrême nord-est du Bénin, est devenue le théâtre d'une attaque meurtrière contre l'armée béninoise. 15 militaires y ont laissé la vie à quelques mètres seulement de la frontière avec le Niger. Cela faisait près d'un an que le pays n'avait pas subi une attaque d'une telle ampleur.
L'invité.
La constitution de la RDC promulguée depuis 20 ans continue de diviser les acteurs de la classe politique congolaise. Si les uns, membres de l'Union sacrée de la nation, optent pour sa révision ou son changement, les autres membres de l'opposition sont contre cette démarche. Cette question a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. On les écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Je commence par vous, honorable Ntumba Bintou Tchabola. Vous êtes député national, honoré et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Alors, quelle analyse peut-on faire de la révision ou du changement de la constitution de la République démocratique du Congo 20 ans après sa promulgation?
Il n'y a aucune disposition qui empêche le pouvoir à faire ce qu'on doit faire. Mais nous devons nous mettre d'accord que la constitution de notre pays peut être révisé. Il y a des choses que nous devons améliorer. Les contextes dans lesquels cette constitution a été mise en place, personne ne l'ignore, c'était le contexte de la belligérance. Et chacun, il y avait des choses, des écueils que nous devons changer. La constitution elle-même prévoit les dispositions pour sa propre révision. Vous avez d'abord l'article 5 qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Et c'est là, comme la souveraineté appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection, ou indirectement par ses représentants. Ça veut dire, personne ne peut enlever au peuple, ni à une fraction de ce peuple, ces droits-là, pour dire que vous ne pouvez pas réviser la Constitution. Vous ne pouvez pas modifier la Constitution. Ça, c'est l'article 5.
Nous allons nous tourner maintenant du côté du président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka, Prince Epengé. La coalition Lamuka s'oppose à toute éventuelle révision ou changement de la constitution. Pour quelle finalité? Pour quelle raison?
La coalition d'opposition Lamuka s'oppose au changement de la constitution parce qu'il n'est pas opportun. À cet instant précis, dans ce contexte présent, l'urgence, les urgences, c'est de réunifier le pays qui a été abandonné par le régime Tshisekedi entre les mains des étrangers. C'est de pacifier le pays au nord Kivu Sud Kivu, à Ituri, au Bandundu et ailleurs. C'est de créer la cohésion et l'unité sans lesquelles nous ne saurons jamais faire face aux menaces de Paul Kagame. C'est de faire des réformes électorales. En effet, dans 2 ans, les Congolais vont se choisir un nouveau président de la République. L'urgence, c'est de construire des routes, c'est de payer les fonctionnaires de l'État. L'urgence, c'est de mettre fin à la corruption qui gangrène la patrie. Voilà pourquoi Lamuka s'oppose au changement de la constitution.
Professeur Alidor Chibanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa. Nous avons affaire là à deux camps opposés. Mais vous, en tant qu'analyste et expert, comment vous analysez cette situation et quelles sont les pistes de solutions que vous suggérez?
Je suis content qu'on discute sur la loi fondamentale. C'est qu'on se pose des questions sur notre devenir, notre avenir. Et pourquoi pas notre destin. Mais ma préoccupation majeure, c'est que ce débat est très mal posé. Le débat est très mal posé. Pourquoi il est mal posé? Parce que le langage des uns et des autres traduisent qu'il y a un problème de dégager un consensus sur ce que les Congolais doivent avoir comme vision commune. Au-delà de nos divergences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient... Mais nous devons nous mettre d'accord sur quelque chose. C'est notre État. C'est la manière dont nous voulons que cet État fonctionne. Alors, le débat qui pouvait être porté à la place publique, qui allait être plus intéressant, serait de discuter de nos faiblesses. Est-ce que la démocratie telle que nous l'avons conçue avance-t-elle ou elle reflète les faiblesses de l'incompréhension des principes démocratiques? Est-ce que l'homme congolais, tel que nous voulons qu'il vive, tel que nous voulons qu'il soit socialisé pour devenir patriote, pour devenir citoyen, est-ce que nous y sommes arrivés ou nous ne sommes pas encore arrivés? Mais le débat de changement des articles, changement de mots, changement de nom, dès lors que cette constitution n'est pas encore totalement appliquée, moi je trouve que, je ne dirais pas que nous sommes dans les débats des caniveaux, je dis que nous sommes en train de nous distraire.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette grande édition du journal coordonnée et supervisée par Lévin Mbouinga Vubu et mise en onde par Pierre Diassinois.